Bien, dans la continuité de ces développements, nous allons maintenant écouter l'intervention de Maître Sophie Savaïdès, avocate au barreau de Marseille, qui, je crois, va nous parler un peu plus de la mort numérique, hein, ce nouveau droit sur la mort numérique, hein, dont on parle déjà beaucoup.
Merci. Oui, donc effectivement, j'avais choisi d'aborder donc le thème de la mort numérique. Mais tout d'abord, je voudrais remercier donc le professeur Hervé Izard et Philippe Mouron donc pour leur invitation à participer à cette table ronde. J'avais noté 10 ans, mais Philippe avait l'air de dire plus de 11 ans après y avoir participé comme étudiante et intervenante aussi, enfin et intervenant donc sur un sujet. Donc c'est avec beaucoup d'émotion que j'y participe maintenant avec un regard de professionnel, puisque donc je suis avocate depuis 6 ans maintenant. J'ai fait un passage à Paris, donc au cabinet de maître Alain Bensoussan avec Jean-Jacques Gomez, avec lequel j'ai eu le plaisir de travailler. Et aujourd'hui, donc, je suis confrontée comme professionnelle à la mise en œuvre des règles juridiques et face aux problématiques que peuvent rencontrer, qu'on peut rencontrer nous en tant que particuliers ou les entreprises dans leur activité professionnelle. Alors effectivement, comme tout le monde l'a souligné, donc cette loi elle est assez novatrice de par sa conception, même si finalement elle est pas à la hauteur de ses ambitions, mais bon, elle a quand même le mérite d'exister et de toute façon on devra faire avec puisque il y a des dispositions avec lesquelles on va devoir donc composer. Et pour une fois, on va dire que la loi a pris un petit peu les devants sur certaines pratiques et tente un peu de faire bouger les lignes avant même que les citoyens soient vraiment conscients de ce qu'il faut faire ou pas, et notamment donc sur les données post-mortem, donc le droit à la mort numérique. Alors, j'ai quand même quelques observations liminaires à faire, puisque effectivement, il y a tout un monde entre la théorie et la pratique, et les règles qui sont édictées par cette loi sont des règles qui sont très belles sur le papier, mais comment est-ce que je vais pouvoir les mettre en œuvre en tant que professionnelle, c'est-à-dire en tant que personne qui va collecter des données au quotidien? Et comment est-ce que moi, citoyen et personne à qui appartiennent ces données, je vais pouvoir effectivement faire respecter mes droits? Parce que comme le disait le professeur Fressinet tout à l'heure, les utilisateurs ne sont pas forcément soit informés, soit ont un comportement un peu irresponsable par rapport à Internet, alors que je pense qu'aujourd'hui tout le monde sait, on le sait pertinemment, quand on va sur Internet, c'est comme si on nous mettait quelqu'un derrière nous et qui trace, c'est comme si on était dans la rue et que tous les jours il y avait quelqu'un qui nous suivait en disant voilà, à telle heure, vous êtes allé dans tel magasin, vous avez acheté ça, vous avez vu telle personne, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Donc, et avec une diffusion illimitée, puisque c'est mondial, et avec des possibilités de diffusion et de copie illimitée, puisque Internet, tout le monde le sait aussi, quand une donnée est fixée, on ne sait pas comment elle est fixée, quand elle est fixée, à qui elle a été transmise. Il y a toutes ces questions qui se posent en pratique, et la plupart du temps, les opérateurs techniques et les entreprises qui collectent ces données ne savent pas forcément, quand elles confient leurs données à un tiers qui va les traiter pour leur compte, elles ne savent pas forcément comment ce tiers traite les données de ses propres clients, ce qui pose de réels problèmes, notamment pour la mise en pratique des dispositions qui sont celles de la loi donc de 78 modifiée donc avec toutes les lois. Donc par rapport à l'effectivité de la loi, de la mort numérique, ça suppose deux conditions, que j'ai pu noter, c'est lors du vivant de la personne qui est concernée par cette collecte, les modalités de collecte, de conservation des données aient été mises en œuvre de manière à ce que la personne décédée puisse elle-même donner des instructions pour organiser sa mort numérique. Comment est-ce que je vais pouvoir organiser ma mort numérique ? Comment est-ce que je vais pouvoir donner des directives si derrière, techniquement, il ne s'est rien passé et finalement, ça reste, il n'y a aucun moyen de savoir et aucune manière pratique de mettre en œuvre cette mort numérique. La plupart du temps, moi, quand j'ai affaire à des clients, et mes confrères ici présents pourront le confirmer ou l'infirmer, la plupart du temps, une personne qui vient, et notamment un professionnel, sa première préoccupation, ce n'est pas la manière dont il va traiter ses données, c'est plutôt quelle forme je vais donner à ma société, quel sera mon business model, et voilà, ils ont des préoccupations de base qui ne sont pas celles de l'utilisation et de la collecte des données à caractère personnel. Donc quand on vient nous voir et que nous, on indique qu'il y a quand même certaines obligations et des obligations qui sont d'une part légales, mais aussi qui peuvent être un apport économique pour eux, puisque moi je considère maintenant que les données des clients, les données d'une entreprise font partie intégrante du fonds de commerce et de la valeur de leur fonds de commerce. Et on le sait tous, quand on n'a pas fait les déclarations qu'il faut pour traiter les données, eh bien les fichiers de données sont illégaux. Donc on ne peut pas les revendre, on ne peut rien en faire. Donc il y a déjà, a priori, une première étape qui est que les personnes qui interviennent en pratique, les professionnels, alors que ce soit ceux qui stockent les données, ceux qui les organisent ou ceux qui les collectent, il y a véritablement des obligations non seulement d'information, mais aussi des obligations techniques. Est-ce que j'ai mis en place ce qu'il fallait pour que je puisse derrière pouvoir recevoir des instructions pour ma mort numérique et pour les mettre en œuvre et rendre aux ayants droit, aux héritiers et acquis de droit, ce que j'aurais collecté et la manière dont je l'aurais collecté. Est-ce qu'il y a une intégrité ? Est-ce qu'il y a une loyauté de cette collecte ? Et est-ce que j'aurais pu certifier de la même façon qu'on peut certifier que les documents sont authentiques ? Est-ce que j'aurais certifié que cette donnée, c'est bien celle que j'ai collectée et que ce n'est pas juste une donnée que je rends parce que je rends que ce qui m'arrange ? Il y a aussi une question de traçabilité. Donc la première limite que je vois dans la mise en place de cette mort numérique, c'est une première limite pratique. C'est qu'avant de pouvoir mettre en œuvre une mort numérique, il faut que j'ai pu mettre en place une vie numérique qui soit effective. Et ça, c'est véritablement la première limite qu'on peut voir. La vie numérique à aujourd'hui, les données je laisse, les traces que je laisse sur Internet, je n'en suis absolument pas maître. Et je pense qu'on peut chacun aujourd'hui se poser la question. On navigue tous sur Internet. Moi, je ne suis pas là toutes les 5 minutes à me dire « Alors attention, là, donc j'ai accepté des cookies, donc je sais que les serveurs, ils sont situés en France, je sais qu'ils sont situés... » En fait, j'en sais rien du tout. Et donc, je ne sais absolument pas où vont mes données, ce qu'on en fait. Donc, l'effectivité d'une mort numérique dans ce contexte-là, on peut se poser la question de sa réelle effectivité. Et deuxième chose, mais qui n'est finalement que le corollaire de ma première observation, c'est que les responsables de traitement aient mis en œuvre les outils nécessaires pour donner les directives et pour éventuellement donner pour instruction ce qu'ils souhaitent faire de ces données. Donc on a vu qu'il y avait des directives générales ou des directives particulières. Et qu'il y aurait donc un nouvel intervenant dans la chaîne de la vie des données numériques et de la vie numérique, qui sera donc le tiers de confiance numérique certifié par la CNIL. Alors, bienvenue à ce tiers de confiance, mais qui est-il ? Pareil, nouvelle question, moi je suis avocat, demain on me dit, je voudrais organiser ma mort numérique, comment je fais ? Alors, bon, je vais lui dire, bonjour, vous allez aller voir un tiers de confiance numérique certifié par la CNIL. Qui est-il ? Comment il fonctionne ? Quelles sont ses prérogatives ? comment est-il certifié, quelles sont ses obligations, par qui est-il contrôlé. Je ne sais absolument pas ce qui se passe. Alors peut-être qu'un tiers de confiance numérique, ce sera un correspondant informatique et liberté, je ne sais pas. On n'en sait rien. Peut-être que moi, comme avocat, je pourrais être tiers de confiance numérique, je pourrais devenir certifié par la CNIL et je pourrais demain donc pouvoir recueillir dernières volontés de mes clients sur la mort numérique. Peut-être qu'un notaire pourra être tiers de confiance numérique certifié par la CNIL, puisque donc les notaires sont quand même assez concernés par tout ce qui est succession et en tout cas dans la vie physique. Maintenant, finalement, on va dupliquer ce qui existe de la vie physique à la vie numérique. Mais dans la vie numérique, est-ce que ma vie numérique est organisée de telle manière à ce que je puisse organiser ma mort numérique ? Je ne suis pas sûre. Donc un nouveau métier. De la même façon, les directives particulières, quelles vont être les limites de ces directives particulières ? Et ce, d'autant que les responsables de traitement vont devoir rendre des comptes aux ayants droit pour la mise en œuvre effective de cette mort numérique. Mais si demain, moi, dans le cadre de ma mort numérique, en tant que directive particulière, je veux que toutes mes données, toutes, quelles qu'elles soient, toutes celles qui concernent donc de données à caractère personnel, je veux qu'elles soient toutes effacées, je veux qu'elles soient remises à donc mes enfants, mais comment est-ce que je vais pouvoir vérifier tout ça ? Donc quelles vont être les limites aussi de ces directives particulières ? Parce qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Et comment est-ce que je vais pouvoir articuler le droit à cette mort numérique et la mise en œuvre pratique, là encore, et quelles vont être les limites des directives particulières, puisque, a priori, une personne a la liberté de donner toutes les directives qu'elle souhaite, mais techniquement, je vais me confronter à des problèmes purement techniques et pratiques. Donc comment est-ce que je vais limiter finalement, ce droit, alors je ne peux pas l'interdire puisque ce serait une clause qui serait nulle. Est-ce que je vais pouvoir apporter des limites techniques, des limites légales, des limites contractuelles ? Si mes directives sont illégales, comment je fais ? Je ne sais pas. Donc il y a plein de questions que va apporter cette loi. Alors c'est très intéressant. Qui est une législation sur la mort numérique. Néanmoins, à mon sens, quelque part, le bon sens et les dispositions qui étaient déjà existantes dans la loi de 78 auraient pu être suffisantes, puisque de toute façon, il y a un droit d'information, un droit d'accès, un droit de rectification, et avec le droit à l'oubli, on aurait pu imaginer que des personnes puissent solliciter à leur décès que certaines données soient effacées. Mais là encore, comment est-ce qu'on va savoir si elles sont réellement effacées ? Puisque à partir du moment où je m'en défais, je ne suis plus maître de cette donnée et je ne sais pas ce qui en aura été fait. Peut-être que je vais demander à Facebook d'enlever telle ou telle donnée que j'ai publiée à tel moment, mais peut-être que lui les aura revendues à d'autres. Peut-être qu'elles auront été copiées par d'autres, je ne le sais pas, et j'aurais donné une directive à un instant T parce que je suis au courant d'un traitement, mais quid des autres traitements ? Donc, on peut se poser la question de la réelle possibilité pratique de mourir numériquement, si je puis me permettre. Alors, ce que je constate aussi, donc, c'est qu'il y a une véritable, et vous l'avez très bien soulevé, il y a une question de consécration extra-patrimoniale ou patrimoniale des données. En France, on a choisi donc la conception extra-patrimoniale. Alors, est-ce qu'on aurait pu peut-être penser, puisque ça existe en droit d'auteur, pourquoi est-ce que ça n'existerait pas en droit des données à caractère personnel ? Est-ce que je pourrais pas avoir un aspect patrimonial ? Puisque soyons très clairs, à partir du moment où je fixe quelque chose sur un support, je peux le vendre. Et ça se fait, et c'est ce qui se vend, et un aspect extra-patrimonial qui serait donc ma dignité, le fait que je puisse m'opposer au traitement de mes données, le fait que je puisse demander leur suppression, etc. Peut-être qu'on pourrait imaginer, sur le même modèle que celui du droit d'auteur, qu'il y a un droit extra-patrimonial et un droit patrimonial sur cette question. Alors, c'est marrant pour moi d'en parler aujourd'hui, puisque j'avais fait mon mémoire sur le sujet, puisque j'avais fait mon mémoire à l'époque sur la patrimonialisation des données à caractère personnel, donc question qui est toujours d'actualité. Donc, je suis très contente de pouvoir en reparler aujourd'hui. Alors, de la même façon, on voit qu'il y a donc des biens numériques qui sont transmissibles. Donc dans le cadre de cette mort numérique, est-ce qu'on pourra penser à ce qu'il y ait un partage, une liquidation du patrimoine numérique d'une personne? Parce que, par exemple, on n'en a pas parlé, mais maintenant, lorsqu'on achète, on va avoir des bibliothèques musicales, on a des livres, des bibliothèques de livres numériques, etc. Moi, j'ai acheté cette bibliothèque, mais ce que je ne sais pas, c'est que bien souvent, je n'ai qu'une licence et que je n'ai pas forcément la titularité des droits sur ces livres. Mais si demain, je veux céder ma bibliothèque musicale à mes enfants, ou même en cas de divorce, on pourrait imaginer qu'il y ait une liquidation, pourquoi pas, du patrimoine numérique. Enfin, on peut vraiment tout imaginer. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut travailler, mais tout ça ne pourra être effectif que si les professionnels qui interviennent et tous les acteurs d'Internet et autres, et objets connectés et autres, dès l'origine, collectent, donnent les informations, sont transparents dans la manière dont ils traitent la donnée, ils la collectent, etc. De la même façon, on vient ajouter de plus en plus d'obligations. Or, on le sait, quand je collecte une donnée, je suis obligée de donner la finalité de traitement. C'est une information obligatoire. Mais à aujourd'hui, je suis persuadée que dans toutes les données que j'ai laissées à différentes époques, il y a certaines entreprises qui utilisent mes données pour une finalité différente que celle pour laquelle elles ont été connectées à l'époque où elles ont été connectées. Comment est-ce qu'elles m'informent de nouvelles finalités de traitement? Elles ne le font jamais. Vous n'avez jamais reçu de mail en disant, voilà, ou de Facebook, voilà, bah, sachez qu'à tel moment, j'ai collecté vos données pour telle finalité, pour telle durée de conservation, mais aujourd'hui j'en fais un autre usage, donc il y aura une autre finalité, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, non. Il y a une autre durée de conservation, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, non. Est-ce que... ça, c'est des choses qui, en pratique, sont difficiles, voire impossibles à mettre en œuvre, ou en tout cas, comment est-ce qu'on peut les mettre en œuvre? Comment est-ce que les professionnels peuvent les mettre en œuvre? Et comment, nous, utilisateurs, on peut aller titiller un peu toutes ces personnes qui collectent ces informations pour pouvoir leur dire, attention, moi, je veux savoir, vous m'avez mis un traceur... derrière moi sur ma navigation, etc. Sur tout ça, je veux savoir ce que vous en avez fait et je veux que, à mon décès, tout soit supprimé. Je doute que ça puisse être réellement effectif en pratique. Donc, la mort numérique, c'est beau, mais comment est-ce que je vais pouvoir le mettre en œuvre? Parce que techniquement, c'est compliqué et parce que ce n'est pas le principal souci des entreprises. Les entreprises, elles ont un souci de rentabilité économique en premier lieu et moins un souci de respect des droits des personnes sur leurs données et de l'intégrité des personnes, parce qu'effectivement, il y a des choses que je vais laisser et je n'ai pas forcément envie de savoir, que des personnes puissent savoir que à tel moment j'ai déménagé, à tel moment j'ai fait ça, à tel moment j'ai fait ça, parce que sur ma navigation j'ai laissé toutes ces informations malgré moi. Donc ça, ce sont des choses très importantes et que ne prévoit pas la loi, puisque la loi, quand je lis finalement ce que prévoit la loi, c'est pas grand chose, puisque mais en trois lignes, toute personne peut définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement, à la communication de ces données après son décès. Ces directives sont générales ou particulières. Voilà, on nous donne le texte et puis débrouillez-vous avec. Comment est-ce que ça va se passer en pratique? ma foi, on n'en a aucune idée. Donc à nous, eh bien professionnels, d'être un peu créatifs dans les solutions qu'on va proposer à nos clients. Parce que ce qu'il faut savoir, et là les entreprises sont assez sensibles à cet argument, c'est que bien souvent, ce qu'on va expliquer aux entreprises, c'est que leurs clients, les personnes dont elles collectent les données, sont assez sensibles à l'argument, et de plus en plus, et le français là-dessus est assez sensible à cette question, on fait partie des pays qui sont les plus sensibles à la question des données à caractère personnel. Les entreprises sont quand même très sensibles au fait de montrer à leurs clients que les données sont conservées en France, qu'il y a des mesures techniques de sécurité qui sont apportées, qui sont importantes, qu'elles respectent les droits des personnes, qu'elles font de leur mieux en tout cas pour protéger ces droits, parce que c'est une valeur de confiance, c'est une valeur de qualité de service qui est apportée aux clients, à leurs clients, et elles sont assez sensibles à ces arguments. Donc de cette manière-là, peut-être pas sous l'angle technique, ou en tout cas de dire attention, respecter la loi, etc., peut-être trouver des arguments qui soient un peu plus... auxquels les professionnels sont un peu plus sensibles, c'est-à-dire un argument économique. Soyons clairs, le seul argument qui soit réellement dissuasif, c'est l'économie, c'est la sanction économique ou la qualité de service qu'on peut apporter, la plus-value qu'on peut apporter à son service et le fait que quand une entreprise traite des données, par exemple, les start-up qui se mettent en place, qui veulent ensuite être rachetées par des grands groupes, un des arguments qu'elles peuvent apporter pour leur rachat, c'est voilà, moi j'ai collecté des données de mes clients, je l'ai fait de manière respectueuse de leurs droits, donc je suis sérieux, donc vous pouvez me faire confiance, et elles vont s'intégrer de manière plus facile dans des grands groupes, puisque eux vont poser ces questions au moment du rachat des entreprises. Voilà, c'est ce que je voulais dire donc sur cet aspect de la loi, donc des données et plus particulièrement des données post-mortem. Voilà, c'est véritablement comment est-ce que je mets en place cette mort numérique et comment est-ce que je donne d'un point de vue technique les moyens aux personnes d'exercer ces droits. De la même façon, la question se pose aussi par rapport à cette mort numérique. S'il n'y a pas d'harmonisation européenne, ça ne fonctionnera jamais puisqu'on sait pertinemment que les données elles ne sont pas stockées en France, en tout cas pour la plupart, et qu'il y a des transferts de données qui sont soit européens, soit internationaux. Comment est-ce que moi, irréductible gaulois, je vais dire attention, j'ai un droit à la mort numérique, mais quelqu'un qui est aux États-Unis va me dire oui, ben, vous êtes gentil, mais... Moi, j'y suis pas sensible à cet argument, c'est pas une obligation. Donc, je vous rends des données, mais je vous rends un peu n'importe quoi ou je ne le fais pas. Donc, il y a véritablement un travail de la part de tous, que ce soit des professionnels, avocats ou juges ou entrepreneurs, pour mettre en place, par exemple, quand la loi ne prévoit pas, mettre en place au sein de contrats. Dans les contrats qu'on va passer avec ses fournisseurs, dans les contrats qu'on va passer avec les sous-traitants des données, on va prévoir des obligations qui nous permettent de mettre en place et de rendre effectifs ces droits. Mais encore faut-il qu'on ait l'information et qu'on soit informé qu'on est obligé de mettre en place ces obligations relatives aux données au caractère personnel. Et ça, c'est un autre sujet, puisqu'il y a très peu de personnes qui sont vraiment au courant des obligations qu'il y a par rapport aux données à caractère personnel.
Bien, merci pour ces développements qui nous montrent encore que le numérique nous renvoie à des problèmes fondamentaux du point de vue juridique. Depuis qu'on a pu fixer l'image des personnes ou les données personnelles sur des supports distincts, ces supports ont pu circuler sans être contrôlés par l'individu. Donc c'est toujours l'éternelle question qui agite depuis déjà un moment. Faut-il traiter ces supports et ces informations comme des biens, comme des choses, ou faut-il au maximum renforcer leur intégrité, leur intégration à la personnalité? Bon, on a toujours choisi cette deuxième option, ça s'en ressent aussi dans la loi. Tant au niveau du droit à l'oubli qui a été octroyé aux mineurs qu'au niveau de la mort numérique sur des sujets particulièrement sensibles, c'est normal.